Merci beaucoup pour la présentation très flatteuse et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui de mon sujet de recherche actuel. En effet, ce cadre est impressionnant pour moi et peut-être aussi pour vous. Et j'ai préparé ma présentation ou mon intervention d'aujourd'hui à l'écrit parce que le français n'est pas ma langue maternelle, comme vous pouvez bien, je suppose, tous l'entendre. Tout de même, j'espère que ça ne nous empêchera pas d'en discuter librement après. J'aimerais bien commencer avec une citation qui nous amène directement au cœur de mon sujet. Des villes allemandes abusées par les apparences, comme le fut un certain nombre de nos marchands parisiens, voulurent profiter des circonstances pour augmenter leurs collections. Malgré la confiscation de nombreuses collections juives et l'isolement international de la France, le marché de l'art parisien a été florissant durant l'occupation. Cependant, ce boom économique n'a pas été porté seulement par le goût pour l'art des membres de l'élite nationale-socialiste comme Hitler et Göring. Il a été également par le grand nombre d'acquisitions effectuées par le musée allemand, comme l'écrit déjà Rose Vallon dans son livre « Le front de l'art ». En particulier, les musées municipaux de la Rhénanie ont acheté pendant l'occupation de centaines d'œuvres d'art pour des millions de francs. Mais après la guerre, la plupart de ces œuvres, considérées comme ayant été acquises de manière illégale, ont été réexpéditées en France, où elles sont aujourd'hui principalement confiées à la garde des musées nationaux. Alors que les achats effectués par le musée rhénan, comme ceux de Cologne, Essen ou Bonn, ont été depuis lors assez bien étudiés, la politique d'acquisition des plus grands musées allemands, le musée de Berlin, n'a reçu jusqu'à nos jours presque aucune attention. Cette lacune est certainement liée à l'idée longtemps admise selon laquelle le musée de Berlin n'aurait joué qu'un rôle mineur durant l'occupation. Or, cette idée se fondait surtout sur les recherches effectuées après-guerre par les officiers des Beaux-Arts, comme Rose Vallon, responsable non seulement de la récupération d'œuvres d'art confisquées, mais aussi achetées par les Allemands. Voici un classement des musées allemands élaboré après la guerre et trouvé aux archives diplomatiques. Comme vous pouvez l'observer, le musée de Berlin était bien considéré comme un acheteur mineur. La source principale utilisée pour établir ce classement était le rapport « Accessions to German Museums and Galleries during the Occupation of France ». Daté du 5 avril 1945 et mieux connu sous le nom de Schenker Papers, car il a été établi grâce à l'exploitation des dossiers de la société Schenker confisqués dans son siège parisien à la fin de l'occupation. Ce dossier de la société Schenker, qui était spécialisé dans le transport d'œuvres d'art, se sont révélés extrêmement précieux pour la récupération des œuvres d'art en Allemagne. En effet, il contenait non seulement des informations sur les expéditeurs et les destinataires, mais aussi sur des données sur les dates d'envoi et le montant de l'assurance, donc des indications très utiles pour déterminer la date d'achat et le prix des œuvres. Ainsi, la place importante des musées allemands dans ces dossiers n'a pas seulement attiré de l'attention sur leur rôle d'acteur sur le marché de l'art, mais a finalement abouti à la rédaction de deux rapports séparés, un pour les acheteurs particuliers et un autre pour les musées, qui reste d'ailleurs jusqu'à ce jour le seul rapport général sur le rôle des musées allemands sous l'occupation. Alors que les listes d'acquisition du musée rhénan font plusieurs pages, juste pour vous donner un exemple, ici l'exemple ou la liste du musée de Krefeld, on y trouve pour le musée de Berlin que des acquisitions mineures. Quelques pièces uniques pour le département égyptien et islamique, assorties de descriptions vagues et qui paraissent forcément insignifiantes comparées aux acquisitions d'autres musées allemands, autant par leur nombre que par leur prix. Cependant, mes recherches au centre d'archives allemandes et françaises m'ont permis d'identifier plus précisément ces objets, mais également de montrer que le musée de Berlin en fait des acquisitions à une échelle beaucoup plus grande que ce rapport le suggère. Bien que contrairement au musée rhénan, ces acquisitions portaient principalement sur des antiquités et ont été réalisées tardivement. En effet, pendant les premières années de l'occupation, le musée de Berlin ne disposait simplement pas des fonds nécessaires. Ce qui amènera le directeur général du musée, Otto Kümmel, à demander en 1941 une augmentation du budget d'acquisition en faisant explicitement référence aux, je cite, « bonnes occasions » qui se présentaient à Paris. L'augmentation ne sera finalement accordée qu'en mars 1942, mais ensuite les musées de Berlin feront tout pour se rattraper dans le court laps de temps qui leur restait. Ainsi, le département islamique à lui seul acquiert plus d'une centaine d'objets sur le marché de l'art parisien, jusqu'à la fin de l'occupation. Pour ces achats, le directeur du département islamique, Ernst Kühnel, a joué un rôle essentiel. Ayant fait une partie de ses études en France, il parlait français couramment, en plus d'être, par profession, un spécialiste du monde arabe. Une expertise qu'il mettait également au service de la Wehrmacht, pour laquelle il analysa à plusieurs reprises des informations issues des services de renseignement pendant la campagne d'Afrique du Nord au sein du quartier général à Paris. Ainsi débarrassé des démarches administratives liées au déplacement en France, il pouvait repérer des acquisitions potentielles directement sur place. Comme il écrit dans son fierté dans un article publié dans le journal des musées de Berlin à la fin de 1943, je cite « Malgré les difficultés provoquées par la guerre, le département islamique a réussi à faire de nombreuses nouvelles acquisitions, pour la plupart sur le marché de l'art parisien, qui est depuis toujours l'adresse principale dans ce domaine. » Un rapide coup d'œil sur une liste des acquisitions faites par le département islamique pendant la guerre, qui provient des archives centrales du musée, en atteste. Sur cette liste, probablement réalisée à la demande des alliés après la guerre, figurent 77 objets au total, qui portent la mention « Kunsthandel Paris » et peuvent ainsi être facilement identifiés comme provenant du marché parisien durant l'occupation, même si on n'y trouve aucune information précise sur l'identité des marchands. Malgré son affirmation que les factures, je cite, traduit. Malgré son affirmation que les factures obtenues par les marchands avaient été détruites en même temps que d'autres documents, après un bombardement des locaux de l'administration générale, j'ai réussi à retrouver des doubles dans le registre des dépenses du musée de Berlin. Or, elles nous permettent d'identifier non seulement le vendeur pour chaque objet, mais également la date précise de l'acquisition. De loin, l'acquisition la plus importante, non seulement durant l'occupation de Paris, mais pendant toute la période des guerres, fut une grande porte en bois avec des plaquettes en ivoire sculptées et à ranceaux et des inscriptions redorées que le département islamique a acquises à la galerie Brimo de la Russie pour la somme de 400 000 francs, ce qui représentait exactement 20 000 Reichsmark à l'époque. Le taux d'échange était fixé à 20 francs. Voici quelques autres exemples avant de vous donner non seulement une idée de la quantité, mais aussi de la qualité des objets. Chez l'antiquaire Kaladjan, le directeur du département islamique Kühnel achète une collection de manuscrits persans, ornés de ceux 290 miniatures du XVIe siècle pour 20 000 francs. Chez Daba, une vase en faïence de Rak du XIIe siècle pour 110 000 francs. Chez Ndamian, une hache persane du XVIIe siècle pour 3 000 francs. Chez Njoutchian, un sanglier en bronze pour 15 000 francs. Et chez Kevorkian, surtout des faïences, la moins chère pour 2500 francs et la plus chère pour 20 000 francs. En plus des acquisitions directes, au moins 6 objets ont été achetés indirectement à Paris. Officiellement acquis auprès du marchand berlinois Dr. Steinmeier, ces objets provenaient en réalité de marchands français Kevorkian et Kalebjian. Une information qui se trouve seulement dans l'inventaire du département islamique où la vraie provenance est soigneusement notée. Comme vous pouvez le voir sur cette facture, Dr. Steinmeier a reçu une provision fixe de 10% pour ses achats qui en effet ressemblent plutôt à des frais de transaction. D'autres documents suggèrent fortement que Kühnel les a probablement choisis lui-même lors d'une visite commune avec Dr. Steinmeier chez les antiquaires français à Paris. Pourquoi alors payer quelqu'un pour une acquisition que Kühnel aurait pu conclure lui-même ? En réalité, de nombreux documents dans les archives du musée témoignent des difficultés à faire des achats à Paris si on se conformait aux lois. Les problèmes rencontrés étaient surtout de nature administrative et pouvaient être résolus beaucoup plus facilement par les marchands ou certains intermédiaires qui, pour le dire d'une manière diplomatique, avaient une approche bien plus flexible. L'exemple de ces acquisitions indirectes témoigne alors aussi bien des problèmes rencontrés qui est des solutions créatives pour le résoudre. Cependant, il montre également la difficulté à identifier la totalité des acquisitions faites durant l'occupation. Un autre exemple de ce processus complexe d'identification sont le don. En effet, en plus des acquisitions directes et indirectes, au moins 20 autres objets sont arrivés de Paris dans les collections du département islamique pendant la guerre. Comme par exemple, cette collection des marques à pain égyptiens. Des objets qui, d'un point de vue formel, ne peuvent alors pas être qualifiés comme achats, car le musée ne les a jamais payés. Bien que ces genres de dons par des marchands d'antiquités au musée soient assez courants, le contexte particulier dans lequel ils ont été faits pose problème. Non seulement parce que les marchands français qui ont fait ces dons vendaient en même temps des objets au musée de Berlin, mais également parce qu'aucune licence d'exportation n'était requise pour des dons. Au moins, c'est ainsi que Kühnle a interprété cette zone d'ombre juridique. En effet, tous les dons étaient assez petits pour qu'il ait pu les transporter dans ses bagages à main. Je ne les ai pas soulignés sur la liste, mais presque tous les objets avec la mention « Geschenk » ont été offerts par des marchands français. Or, en regardant la liste, je suppose que cela vous donne une idée assez précise de l'importance globale des objets provenant du marché de l'art français, ou provenant de Paris durant l'occupation. Cependant, d'autres acquisitions étaient prévues, mais n'ont jamais été réalisées. Déjà en octobre 1943, Kühnle avait reçu la permission du directeur général d'acheter une douzaine d'autres objets sur le marché de l'art à Paris. Pourtant, les objets en question ne sont jamais arrivés à Berlin. Une chronologie détaillée de ces acquisitions manquées se trouve dans les archives du département islamique, avec d'autres documents nous permettant de comprendre toute la complexité de la procédure administrative concernant les achats à l'étranger, au moins pour les musées. Ainsi, d'un point de vue de chercheur, c'est bien les acquisitions manquées qui sont plus intéressantes pour comprendre le fonctionnement du marché de l'art sous l'occupation que les acquisitions réussites ou réalisées. Or, dans une lutte contre le temps, le directeur du département islamique Kühnle s'est battu jusqu'au dernier jour pour réussir à faire venir les objets à Berlin. Encore dans une lettre datée du 17 août 1944, il renouvelle sa demande d'assistance auprès du ministre des Finances. Je cite traduit. « Je vous serais très reconnaissant de faire le nécessaire avant qu'on nous accorde encore la permission, avant qu'il soit trop tard de faire des acquisitions sur le marché de l'art à Paris. » Il s'agit bien d'un dernier essai en vain, car deux jours plus tard, Paris sera finalement libéré. Cependant, cet exemple montre bien les temps très limités dont disposait le musée de Berlin. Contrairement au musée rhénan, ils ne disposaient ou disposèrent des fonds nécessaires qu'à partir d'avril 1942, et dans le cas du département islamique, aucune acquisition après mars 1943 n'est jamais arrivée à Berlin. Par conséquent, le temps disponible pour faire des acquisitions se limita à seulement 12 mois, en fait qui doit être pris en considération si on évalue le nombre impressionnant d'objets acquis tout de même. Étant donné que la plupart des acquisitions faites par d'autres musées allemands furent rendues à la France après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr la question se pose de savoir qu'est-ce que sont devenus les objets qui sont arrivés à Berlin quand même. Grâce à la collaboration et à l'aide des conservateurs au département islamique, j'ai pu constater que la plupart des objets a bien survécu la guerre. Une chose qui n'est pas du tout évidente si on pense aux grandes destructions et aux pertes que les musées ont subies pendant et surtout après la guerre. En effet, les objets de Paris sont arrivés à Berlin quand la collection du département islamique avait déjà été évacuée et furent alors cachés dans le sous-sol du musée. Après la guerre, ces objets se trouvaient alors dans le secteur soviétique. Un seul objet, bien que le plus cher, la porte en bois que je vous ai montré au début, est perdue. Bien que nous n'ayons aucune information sur sa localisation actuelle, comme pour beaucoup d'autres objets du musée de Berlin, il est fortement probable qu'il se trouve quelque part en Russie aujourd'hui. Paradoxalement, la raison principale pour laquelle les acquisitions du musée de Berlin ont été ignorées durant une si longue période réside dans le fait qu'aucun objet n'a été restitué. Même si le département islamique et son directeur Kühnle est probablement le département, le plus actif sur le marché de l'art parisien, il n'en est en aucun cas le seul à y avoir acheté des objets. Ainsi, le musée de Berlin achète aussi un tableau de Corot pour 1,2 million de francs et des sculptures, comme par exemple cette Vierge à l'enfant en pierre du 15e siècle, acquise par le sculpteur Naptalon pour 450 000 francs. Mais surtout des antiquités. Le Vorderasiatische Abteilung, quant à lui, achète deux sculptures mésopotamiennes pour 1 million de francs et l'Egyptische Abteilung acquiert 34 objets égyptiens pour une somme totale de 1,3 million de francs. Bien que mes recherches ne soient pas encore achevées, j'ai déjà pu identifier plus de 160 objets provenant du marché de l'art parisien avec une valeur globale qui atteint environ 7 millions de francs. Des objets qui, bien au contraire des acquisitions des musées de la Rhénanie, appartiennent encore presque tous à la collection des musées de Berlin aujourd'hui. Puisque toutes ces acquisitions furent réalisées sous l'occupation territoriale et pendant le génocide juif, une autre question s'impose. D'où viennent ces objets? Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, les premiers diagrammes montrent le résultat préliminaire des acquisitions directes et indirectes par nombre, le deuxième par prix. Le département islamique, par exemple, a acquis des objets dans 7 galeries différentes. La galerie de Agop Injuchian, d'Edouard Gervan Hindamian, d'Agop et Garbis Kalepchian, de Garabet Kevorkian, de Nicolas Brimo et la Combe de la Russie, ainsi que de Georges Taba. Les antiquaires, qui sont également responsables de la majorité des ventes aux autres départements de Berlin, comme le département de sculpture, les départements égyptiens ou encore les départements mésopotamiens. Même si les objets passés par leurs mains se trouvent aujourd'hui dans presque tous les grands musées du monde, nous n'en savons que très peu à leur sujet. Une des rares sources publiquement disponibles sont les dossiers de la commission d'épuration interprofessionnelle qui, après la libération, était chargée d'examiner la collaboration des marchands d'art français, certains d'entre eux qui ont vendu des objets au musée de Berlin. Même si la plupart des accusations contre eux ont été abandonnées sans enquête complémentaire, ces dossiers d'investigation restent une source essentielle pour reconstruire les circonstances des acquisitions. Ce court extrait du dossier de Nicolas Brimo, qui était le gérant de la galerie Brimo de la Russie et un des vendeurs le plus important au musée de Berlin, montre pourquoi cela est si important. Je cite « Nous tenons à préciser que dans les chiffres total des affaires traitées durant l'occupation, une bonne part concerne des marchandises que nous avions avec des Israélites, et ces ventes leur permirent de pouvoir subsister durant toute la période des persécutions, donc ils étaient l'objet. Bien entendu, nous nous sommes arrangés de manière à ce que personne ne se soupçonnât de ces choses-là. Et bien que cela ne prouve pas que dans le cas des acquisitions des musées de Berlin, il s'agisse aussi de ce qu'on pourrait qualifier de ventes sous contrainte, cet exemple montre déjà pourquoi des recherches plus approfondies sont nécessaires. Cependant, cette recherche ne peut pas se limiter à la question de savoir si une œuvre a été spoliée ou non. D'ailleurs, et bien que cette question demeure extrêmement importante, elle fait aussi partie du problème. Si le musée de Berlin a si longtemps ignoré leur rôle pendant l'occupation, c'est aussi parce que leurs propres recherches de provenance sont souvent déterminées par cette seule question. Or, dans ce type de recherche traditionnellement focalisée sur un objet précis, la reconstruction de sa trajectoire échoue souvent. D'autant plus quand il s'agit des antiquités qui portent souvent seulement des descriptions vagues, sans aucune indication d'acteurs comme vases ou encore sculptures. La difficulté particulière liée à ce type d'objet peut aussi expliquer, au moins en partie, pourquoi les officiers de Beaux-Arts concentraient leurs investigations après la guerre en grande partie sur le tableau. Ce qui limite d'ailleurs beaucoup les sources disponibles aujourd'hui. Comment alors réagir face à ce que Léa a appelé la semaine dernière un angle mort? Afin d'apprendre plus sur le trafic d'antiquités, des recherches plus complètes sont nécessaires, qui devraient commencer par les antiquaires eux-mêmes et leurs réseaux. Même si ces recherches devraient permettre de mieux répondre à la question de la spoliation, elles ne peuvent cependant pas se limiter à la période de l'occupation. Ainsi, en suivant les origines des objets acquis par le musée de Berlin, j'ai pris conscience de l'importance de ce groupe d'antiquaires d'origine arménienne, qui est responsable de la majorité des ventes au musée de Berlin, et semble assez représentatif du marché d'antiquités dans la première moitié du XXe siècle, qui était contrôlé en grande partie par ces marchands. Partageant non seulement la même origine, mais aussi le même destin, ils sont pour la plupart arrivés à la fuite du génocide arménien à Paris, où ils se sont rapidement imposés comme antiquaires. Je cite dans l'article publié dans le journal La Renaissance, paru en 1914. Depuis une dizaine d'années, ce ne sont plus les antiquaires parisiens qui se transportent en Orient, ce sont les Arméniens, Persans et Hindous qui viennent s'installer à Paris et détailler aux amateurs français les faïences et les miniatures qu'ils achètent là-bas par cargaison. Les premiers temps, ils achetaient et vendaient un peu aux petites bonheurs, sans méthode, sans la moindre connaissance raisonnée des objets d'art et de la valeur scientifique. Aujourd'hui, nous avons changé tout cela. On ne trouve plus chez ces messieurs en tessin qui ne soit pas daté par un membre de l'Institut, plus une tablette cunéiforme qui n'est traduite en assyriologue assermenté. Enfin, quand ils ont réuni un bel ensemble, ils en font une exposition, toute comme il s'agissait des peintures futuristes ou des dessins de M. Rodin. En effet, ces antiquaires n'étaient pas seulement des marchands, mais aussi des collectionneurs. Voici par exemple la liste des prêteurs de la fameuse exposition de l'art mahométane à Munich en 1910. Une première grande exposition sur ce sujet, où figurent, comme vous pouvez le voir, déjà beaucoup d'antiquaires qui ont vendu des objets au musée de Berlin pendant l'occupation, comme Hindamian, Injutian, Kalepchian ou encore Kevorkian. Ainsi, non seulement par leur vente comme marchands, mais aussi par leur goût comme collectionneurs, ces antiquaires ont joué un rôle important pour la constitution des départements spécialisés, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ce rôle doit encore être étudié en détail. Le succès rapide de ces marchands s'explique largement par leur collaboration, comme le montrent les recherches récentes que j'ai pu mener grâce au soutien du Centre allemand de l'histoire de l'art à Paris. Comme nouveaux arrivants, ils ont rapidement développé des stratégies communes pour s'imposer contre les marchands français bien établis. Ainsi, dans un livre de sociologie dédié à la diaspora arménienne, publié en 1926, on trouve une longue description sur les affaires commerciales des frères Kalepchian, qui ont été, avec Brimo de la Russie, l'un des vendeurs les plus importants au musée de Berlin. Voici une photo en mauvaise qualité, mais c'est la seule photo qu'on a de cette galerie, ou de leur galerie. La firme Kalepchian, frère, toute familiale qu'elle soit, rêvait donc la forme d'une société en nom collectif. Mais cette firme forme continuellement, avec les autres firmes arméniennes, des ententes temporaires qui révoltent la forme de la société en participation. Pour le public, pour le client, ces sociétés sont comme s'ils n'existaient pas. Voyons comme les choses se passent. Un gérant est nommé, ordinairement l'un des associés, pour étudier et traiter l'affaire avec une rémunération spéciale. Les objets achetés sont répartis entre les maisons associées proportionnellement à leur apport, ou encore si les objets sont revendus par la société, ce sont les bénéfices qui sont répartis en raison des participations. Cette combinaison permet à des maisons peu importantes de participer à des grosses affaires. Une nouvelle société éphémère se fonde à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire en vue, n'en font partie que ceux que cela intéresse. Comme conséquence de cette pratique de marchandises en participation, il semble que le nom qui figure sur une facture ne soit pas toujours les vrais propriétaires ou au moins non pas le seul. Que vaut alors une facture dans ce cas? Une question qui devient d'autant plus importante si on considère que les frères Kalepchian n'avaient pas seulement des relations commerciales avec des Arméniens, mais, comme le prouve un bilan produit lors d'un contrôle fiscal sous l'occupation, également avec des confrères juifs, comme le frère Bakri ou encore Ernest Asher. Bien que je ne sois qu'au début de ces recherches, ces informations me semblent alors non seulement importantes lorsqu'il s'agit de clarifier la provenance des acquisitions faites par les musées de Berlin, mais aussi pour apprendre plus sur le marché de l'art en France en général et sur le trafic d'antiquités de l'Orient vers l'Occident en particulier. Ainsi, ma recherche sur les acquisitions du musée des Belles-Lettres sous l'occupation vise plusieurs objectifs en même temps. Le premier objectif est bien sûr d'identifier au sein des collections du musée des Belles-Lettres les objets provenant du marché de l'art parisien. Face à la difficulté de reconstituer dans le cas des antiquités la trajectoire précise de chaque objet, cette recherche devrait commencer par l'analyse des circonstances concrètes de leurs acquisitions. Le deuxième objectif est de développer à partir de ces cas précis une analyse plus nuancée des acteurs et des réseaux actifs durant l'occupation. Comme le montre bien l'exemple du musée de Berlin, cela devrait aussi impliquer une lecture plus critique des sources majeures comme le dossier d'investigation des Alliés. Le troisième et dernier objectif est de restituer la politique d'acquisition des musées de Berlin sur le marché de l'art parisien dans le contexte plus large des déplacements d'œuvres d'art, surtout des antiquités. Le projet de translocation propose ainsi un cadre scientifique qui permet de dépasser les approches traditionnelles de la recherche sur la provenance des objets acquis pendant la période nazie. Alors, quel rôle joue Paris dans le trafic d'antiquités au-delà de cette période précise? Comment ces objets sont arrivés à Paris avant d'être revendus? Et quels sont les discours justificatifs liés à la restitution ou, dans le cas du musée des Belles-Lettres, la non-restitution des objets déplacés sous l'occupation? Voilà quelques questions. Donc j'aimerais bien discuter avec vous.